pour le faire fructifier, si on veut. Là, on s'entend qu'on est loin, loin, loin d'une situation déficitaire. J'ai demandé au cabinet des précisions. Ce que je comprends, je te résume ça en quelques secondes, c'est que lors d'une année courante, OK, ce qui rentre et qui sort dans le fond, ça, ça doit s'équilibrer. Et si tu l'équilibres pas et que tu en sors plus que ce que tu mets dedans, ça vient s'ajouter au déficit global du gouvernement.
OK.
Donc, ce qu'on me dit, c'est que pour renflouer, par exemple, rouler vert ou camionnage vert, bon, etc., si on avait voulu aller chercher dans le coussin de 1,7 milliard, ce serait venu gonfler le déficit qui est déjà de 11 milliards. Donc, essentiellement, soyons clairs, là, ce fonds-là n'est pas déficitaire. Dans une année courante, il s'équilibre, mais on est assis sur 1,7 milliard de dollars d'argent qui a été cherché avec le marché du carbone, avec la taxe sur l'essence et tout ça, qu'on ne veut pas utiliser pour continuer à améliorer nos performances en matière d'électrification sous prétexte qu'on veut pas augmenter la dette, mais Moses, qu'on aime ça qu'il fasse du rendement, par exemple.
Intéressant. On a le cash, mais si on y touche, à cause de règles comptables, ça s'ajoute au déficit.
Sauf que c'est du cash. C'est pas comme de dire je vais aller piger dans mes REER.
Ça rapporte.
Ouais, je vais être obligé de d'imposer.
Ouais, ouais, ouais.
C'est que c'est de l'argent qui est dans ce fonds-là. Le but, la raison d'être du fonds, c'est de nous servir à financer des initiatives. Or, là, finalement, c'est une façon de faire fructifier des sommes. Et quand il y aurait une occasion d'aller en chercher davantage pour soutenir des initiatives qui sont porteuses, mais sous prétexte de pas vouloir empirer le déficit, ah ben là, on dit non, non, on n'ira pas toucher à ce 1,7 milliard-là, on va le laisser dormir. Là.
Intéressant. Merci beaucoup, Jonathan. Salut. Si jamais Justin Trudeau démissionne avant la fin de l'émission, sois certain qu'on va te rappeler.
Oui.
L'actualité, notre passion, votre quotidien. Avec Kevin Beaulé, c'est Bonjour Grand Portage. Les actualités Cogeco Nouvelles.
Le jeudi 19 décembre, ici Stephen Zurbinski. Voici les nouvelles. Eh bien, en France, Gisèle Pélicot espère que les verdicts de culpabilité qui ont été rendus à l'encontre de son ancien mari et de ses 50 co-accusés vont ouvrir la porte à un avenir meilleur. C'est ce qu'elle vient de dire. Dominique Pélicot a été condamné, rappelons-le, à 20 ans de prison pour avoir drogué, violé son ancienne femme pendant près de 10 ans, tout en permettant à d'autres hommes de la violer alors qu'elle était sous sédation. Alors, réagissant au cours de la dernière heure au verdict, Gisèle Pélicot a soutenu qu'elle souhaite voir un changement de culture. On l'écoute.
J'ai confiance à présent en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femme et homme, puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle.
D'autres réactions, bien sûr, sont à venir. Chez nous, selon le collègue Jonathan Trudeau, chroniqueur politique au 98.5 à Montréal, un remaniement ministériel est prévu demain à Ottawa. Dominique Leblanc a d'ailleurs confirmé à différents médias que Mark Carney ne va pas se joindre au cabinet de Justin Trudeau. Après la démission de Chrystia Freeland, lundi, les discussions seraient maintenant terminées avec l'ancien gouverneur de la Banque du Canada. Une opération policière d'envergure liée au contrôle des stupéfiants ainsi qu'à la violence armée dans la province s'est déroulée mercredi, hier. Près de 200 policiers ont effectué 15 perquisitions, dont dans 6 établissements, carcéraux, menant à l'arrestation de 35 individus selon un bilan provisoire. L'opération a été menée en collaboration avec les services correctionnels du Québec. Une dizaine de téléphones intelligents ont notamment été saisis, comme l'explique l'inspecteur chef de la Direction des enquêtes de la Sûreté du Québec, Michel Patnaud.
Les cellulaires que nous, on a saisis, c'est dans le cadre de différentes enquêtes de la violence armée. Donc, ce qu'on tente d'aller chercher, c'est des communications en lien avec les infractions reprochées. En fait, le Centre correctionnel québécois est un partenaire de la Sûreté du Québec depuis un certain temps. Donc, le renseignement que nous, on détient pour aller chercher les cellulaires, ils collaborent avec nous autres. Et nous, si on a du renseignement, on leur partage à eux pour qu'ils puissent intervenir aussi à l'intérieur des murs.
Selon un sondage Synopsis réalisé pour le compte du 98.5 et Cogeco Média, eh bien, on apprend que la moitié des Québécois ont eu recours à des soins privés au cours de leur vie. Leur satisfaction envers cette expérience est également nettement supérieure à celle rapportée dans le système public. L'attrait des soins privés dépend principalement de la durée d'attente dans le réseau public et des tarifs demandés au privé. Un peu de hockey, les Canadiens qui ont repris l'entraînement hier à Brossard. Il a été question, bien sûr, de l'avantage numérique du tricolore, alors que l'équipe se prépare à affronter les Red Wings à Détroit demain et à Montréal samedi. Kevin Dupont.
Patrick Laine est devenu mardi soir le premier joueur de l'histoire des Canadiens à marquer ses 6 premiers buts avec l'équipe sur l'avantage numérique.
Le tour du chapeau!
Depuis son retour au jeu, le Finlandais a inscrit 6 des 8 buts de son équipe en 25 jeux de puissance, qui impressionne grandement l'attaquant Josh Anderson. Et l'entraîneur-chef Martin Saint-Louis est conscient qu'il peut maintenant utiliser Laine et Caulfield comme une double menace en avantage numérique. Il ajoute que l'équipe doit aussi trouver une façon d'être plus imprévisible face à ses prochains adversaires.
On a plus de weapons, si tu veux. Avec Paddy, c'est deux droitiers. Les deux ont des bons one-timers. T'sais, les deux, on peut les faire changer de place de temps en temps.
Même si Cole Caulfield est réputé pour son tir foudroyant, il avoue que celui du numéro 92 est bien spécial. Kevin Dupont pour Cogeco Nouvelles.
Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
À Ciel FM. Bonjour, grand reportage. Météo.
Détail météo, donc aujourd'hui, c'est gris, la neige a cessé. Températures également seront à la baisse pour atteindre moins 10 cet après-midi. Ce soir, cette nuit, quelques nuages avec un minimum de moins 14. Demain, vendredi, généralement nuageux, maximum moins 9. Samedi, des nuages, maximum moins 10. Et du soleil pour dimanche, avec un maximum assez froid, cependant de moins 12 degrés.
Température actuelle.
Sur Rivière-du-Loup, présentement, moins 4 températures ressenties de moins 10.
Plongez au cœur de l'actualité avec nous. Notre engagement, vous livrez l'information sans compromis. Au rythme de l'information. Avec Kevin Beaulé. C'est Bonjour Grand Portage.
La chronique économique avec Marie-Ève Fournier vous est présentée par Mallette comptable professionnelle agréée. Vous êtes une entreprise privée ou un organisme qui désire donner un haut niveau de crédibilité à ses données financières sans être tenu de publier des états financiers audités. Un examen de vos données financières par les professionnels de Mallette vous permettra d'augmenter le degré de crédibilité que les créanciers, actionnaires et autorités fiscales accorderont à vos données financières publiées. Mallette, avec vous, là où ça compte. 862-0495.
Salut Marie-Ève.
Salut Patrick.
Très mauvaise journée en bourse hier, là, dès que la Banque centrale américaine, la Fed, a annoncé qu'elle baisserait moins souvent le taux directeur l'année prochaine là, que prévu. Ça a été la panique à Wall Street et aussi ça a dégringolé à Toronto.
On avait perdu l'habitude des chutes brutales, hein, Patrick, oui. Après l'automne exceptionnel qu'on a connu en bourse. Mais je te dirais que c'est pas la pire journée de l'année. Il y a eu des journées pas mal plus sombres au cours de l'été. Le 24 juillet, le 5 août, ça a été très difficile. Mais on les a déjà oubliés parce qu'à chaque fois, les reprises ont été très rapides. En quelques jours seulement, ça avait rebondi. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles du 13 février. C'était pas juste la veille de la Saint-Valentin, ça a été la pire journée de l'année en bourse à Toronto. Mais le 15, toutes les pertes étaient déjà effacées. Donc, je dis tout ça pourquoi? Parce que faut retenir que ça peut bouger très vite, donc il faut pas céder à la panique. Et c'est surtout pas le temps de vendre, là, parce que quand les prix baissent, c'est plutôt normalement le temps d'acheter. Hein? C'est comme si on avait le droit un peu à un Boxing Day là, avant le temps aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est déstabilisant quand on regarde ses placements. Là, j'ai eu la mauvaise idée de le faire hier. Je te dirais que j'ai sursauté. Et là, j'ai pris une tisane à la camomille, je me suis ressaisie. Et là, j'espère vraiment qu'aujourd'hui, les investisseurs vont faire pareil. Là, parce qu'hier, ils ont été extrêmement surpris par la décision de la Banque centrale qui a dit, ben, je vais diminuer mes taux seulement 2 fois dans la prochaine année plutôt que 4, parce qu'on pense aux États-Unis là, que l'inflation va augmenter en 2025 au lieu de diminuer comme c'est le cas au Canada présentement. Évidemment, les tarifs que Donald Trump pense imposer, là, ça risque d'avoir un effet sur la hausse des prix. Donc, la Fed, fallait qu'elle en tienne compte. Hein? Donc, et là, si les taux demeurent, si l'inflation demeure élevée, si les taux demeurent élevés, ben ça inquiète les investisseurs et ça a un gros impact sur le dollar canadien. Notre dollar qui est déjà malmené.
Oui,
hein,
qui a atteint des bas-fonds, là, semble-t-il.
Oui, là, le niveau, présentement, là, notre dollar vaut 69 sous américains. La dernière fois qu'on avait vu ça, c'était au tout début de la pandémie. Hein. C'était en mars 2020. Notre dollar est déjà malmené par l'incertitude politique à Ottawa parce que, bon, il y a eu le départ de Chrystia Freeland. On ne sait pas si le gouvernement va tenir longtemps. À un mois de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, on se demande vraiment qui va être capable de négocier avec lui? Est-ce qu'on va avoir un rapport de force quelconque? Est-ce qu'on va être en élection? Qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup d'incertitudes à Ottawa. Donc, on ne sait pas exactement là, qu'est-ce qui va arriver en bourse aujourd'hui. Hein. On peut jamais le prévoir. Mais ce que je peux te dire, Patrick, c'est que quand Post Canada va livrer nos bilans de fin d'année, là, nos bilans financiers, ouais, ceux qui n'osent pas trop ouvrir les enveloppes devraient quand même avoir de belles surprises parce que les bourses, les indices, en général, ont connu une très bonne année 2024.
Parfait. Parlons maintenant de productivité parce que, tu sais, on veut tous un centre-ville vibrant à Montréal, des travailleurs qui font rouler l'économie. Mais pour convaincre le monde de revenir, ce serait une bonne idée d'avoir du transport en commun fiable. Et hier, tu as vécu une mauvaise expérience.
Ben oui, je veux pas faire pitié, mais je vais te raconter là rapidement ce qui est arrivé. C'est qu'hier, ça m'a pris plus de 2 heures pour me rendre au service au centre-ville de Montréal à partir de la rive sud. On parle de la productivité des travailleurs, mais je peux te dire qu'il y en a des centaines et des centaines hier qui ont vraiment pas été productifs parce que ça a pris entre 2 et 3 heures pour les gens de la rive sud pour se rendre au centre-ville, alors que normalement, ça prend entre 15 et peut-être 30 ou 40 minutes. Là. Donc, le train de 8 heures a été annulé. Donc, celui de 8h30 était extrêmement bondé. Et là, quand on est arrivé à Montréal, il y avait un incendie et le train a reculé jusqu'à Saint-Lambert. Et là, après avoir poireté là, plus d'une heure, donc je te dirais que les enfants commençaient à s'impatienter, la file pour les toilettes était interminable. Et là, on recule jusqu'à Saint-Lambert et on nous met dans des autobus, on nous amène au REM. Et là, il a fallu que qu'on repaye nos billets parce que ça faisait plus que 2 heures qu'on les avait validés. Donc, ça m'a fait réfléchir parce que tout ce temps-là, on a eu aucune information sur nos cellulaires, sur le système d'alerte là, du système du transport en commun.
Et c'est un système qui est sur place, là, qui existe.
C'est un système qui existe. Moi, je suis abonnée depuis des années et je te dirais que c'est très aléatoire. Des jours, ça fonctionne. Des jours, on n'a absolument aucune information. Et la plupart du temps, les alertes sont totalement inutiles parce qu'on les reçoit après coup. On apprend une demi-heure après le fait que le train est annulé ou que le train est en retard. Alors, quand on arrive au centre-ville, on a une réunion avec les collègues, on veut rencontrer des clients, ou le soir, si on a des enfants à aller chercher à l'école, à la garderie, faut qu'on puisse se fier sur les alertes pour prendre des décisions, pour se trouver un plan B. Les magasins, les médias, les banques, je veux dire, tout le monde est capable d'envoyer des alertes en 2024. Il faut que le transport en commun soit aussi efficace, là. Et puis, j'ai tellement passé hier, Patrick, dans le train, l'autobus, le REM, le métro, que j'ai eu le temps de me faire des amis. Et dont 2 gars, un qui habite à Saint-Hyacinthe, un autre qui habite à Saint-Hilaire. Puis les deux me disaient, on est en panique. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à les travailler au centre-ville? Parce que la RTM, on l'a appris au début de l'automne, envisagerait d'abandonner 3 lignes de train, hein, Mascouche, Candiac, Saint-Hilaire. Et là, c'est des travailleurs qui se demandent comment ils vont faire pour aller travailler. Le service de transport en commun, là, ça devrait être bonifié là, au fil des ans, pas diminué. En plus, les gens habitent de plus en plus loin à cause du prix de l'immobilier. Les gens habitent dans la deuxième couronne. Donc, tout ça, ça doit être pris en compte là, dans les investissements, dans les décisions. Et puis, on veut ramener en plus les travailleurs au bureau, hein, souvent presque à temps plein pour toutes sortes de bonnes raisons, hein, créativité, esprit d'équipe, productivité, collaboration. Aux États-Unis, d'ailleurs, Patrick, je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est une tendance très, très lourde en ce moment. On en parle un peu moins ici, là, mais Amazon, Walmart, Disney, Dell, les banques, ils ont presque tous ramené les travailleurs au bureau 5 jours. Si c'est pas, ça n'a pas été fait dans les derniers mois, ça va l'être en janvier. Ça se pourrait que les entreprises canadiennes embarquent dans le mouvement. Mais si on veut que les travailleurs reviennent au centre-ville, reviennent travailler avec le sourire, si on veut pas que ça cause des enjeux dans les négociations de conventions collectives, il faut qu'on ait un transport en commun efficace